Deuxième partie, chapitres 4 à 10. Le débat de l'Éternel avec Israël. Chapitre 4. Plus d'espoir pour Éphraïm. Il reste un faible espoir pour Juda. Les versets 1 à 5 de ce chapitre décrivent l'état moral d'Israël et les versets 6 à 15 son état religieux. L'état moral d'Éphraïm, le prophète Osée l'avait sous les yeux. Partout, exécration et mensonge et meurtre et vol et adultère. La violence déborde et le sang touche le sang. Zacharie, dernier rejeton du meurtrier Jéhu, est lui-même mis à mort par Shalom, qui est frappé par Menahem. Menahem sème partout le meurtre et la violence. Il en est de même de Pakakia, de Pekak, ses successeurs, qui meurent de mort violente. Le deuil couvre le pays. Le jugement de Dieu, obligé d'assister à ces abominations, s'étend des hommes à toute la création animale sur la terre d'Israël. Plus rien ne correspond aux pensées de Dieu. C'est le contre-pied absolu de la restauration décrite au chapitre 2. Lorsque le cœur abandonne Dieu, l'amour et la vérité, traits du caractère divin, disparaissent immédiatement pour être remplacés par les fruits du cœur naturel de l'homme, la violence, la corruption et le mensonge. C'étaient les traits de la famille de Caïn qui avaient nécessité le jugement de Dieu par le déluge sur le monde d'alors, comme il nécessite ici la sentence de mort prononcée sur le pays et sur tous les êtres vivants qui l'habitent. Verset 3. Toutefois, que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Or, ton peuple est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. Et tu broncheras de jour, et le prophète aussi avec toi bronchera de nuit, et je détruirai ta mère. Versets 4 et 5. C'est maintenant un appel à ne plus reprendre ce peuple ni contester avec lui. Il est trop tard. Son sort est arrêté, car il n'y a plus aucun espoir de le voir revenir. Ton peuple, dit l'Éternel au prophète, est comme ceux qui contestent avec le sacrificateur. À quoi bon contester avec Israël et le reprendre quand lui-même conteste avec le seul qui puisse offrir pour lui la victime expiatoire? Il n'est plus temps. Tout secours divin va être ôté au reste de ce peuple. La nation elle-même, leur mère, sera détruite. Voir chapitre 2, verset 2. Telle est la sentence de l'Éternel. Mais avec quelle douleur Dieu s'exprime maintenant par la bouche du prophète. « Mon peuple, mon peuple » s'écrit-il au verset 6 et 12, à la veille de dire « l'eau a mis ». Quelle est leur condition dans ces rapports avec Dieu? Leur défection est générale. L'idolâtrie a tout envahi. Juda est aussi coupable qu'Éphraïm. Même les détails donnés au verset 13, les sacrifices sur les hauts lieux et sous tout arbre vert, caractérise Juda plus encore que les 10 tribus. Cependant, le prophète fait quelques différences entre les deux royaumes. « Si tu te prostitues, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. » En des temps de réveil, sous Ézéchias, dont Osée vit le règne à son début, et plus tard sous Josias, les abominations de Juda furent détruites et ses hauts lieux renversés. Quoi qu'il en soit, Dieu dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance, et je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la sacrificature devant moi, car tu as oublié la loi de Dieu, et moi, j'oublierai tes fils. » Verset 6. Au désert de Sinaï, l'Éternel avait déclaré à Israël que, s'il gardait l'alliance de la loi, il lui serait un royaume de sacrificateurs. Exode 19, versets 5 et 6. Israël ne l'ayant pas gardé, la sacrificature royale lui était ôtée. Comment aurait-il pu servir et adorer, être maintenu dans des fonctions sacerdotales vis-à-vis d'un Dieu qu'il ne connaissait point? Tu as rejeté la connaissance, lui dit l'Éternel, et c'est faute de cette connaissance que la destruction l'atteint. Bien plus encore, il avait oublié la loi de son Dieu. L'oublier comme si elle n'avait jamais existé, après l'avoir connue, cette loi juste et sainte, n'était-ce pas bien pire que de ne l'avoir jamais connue? Aussi Dieu dit « Moi, j'oublierai tes fils » verset 6. Dans quelle misère la désobéissance et le péché plongent l'homme! Quel sort d'être oublié de Dieu, quand il aurait pu entrer devant l'Éternel qui déclarait ne vouloir oublier qu'une chose, les péchés et les iniquités de son peuple. Osée, avec l'incohérence voulue qui caractérise sa prophétie, passe de la sacrificature du peuple au sacrificateur établi sur lui. Versets 8 et 9. Ils mangent le péché de mon peuple, et leur âme désire son iniquité. Et comme le peuple, ainsi sera le sacrificateur. Je pense que le péché signifie ici, comme plus d'une fois dans l'Écriture, le sacrifice pour le péché. Les sacrificateurs désirent que les iniquités du peuple se multiplient afin de pouvoir d'autant plus largement se nourrir de leurs sacrifices. Voilà jusqu'où étaient tombées les fonctions sacerdotales. Elles n'étaient plus qu'une affaire de profit matériel, un gagne-pain. Aussi Dieu visite sur eux leur voie. Verset 9. Quant à l'ivresse conduisant à la fornication, et si commune en Éphraïm, elle leur ôtait le sens, et ils avaient cessé de prendre garde à l'Éternel. Verset 11. Les pratiques superstitieuses les plus insensées avaient remplacé en Israël le culte du vrai Dieu. Le peuple interrogeait son bois, et son bâton était son oracle. Verset 12. Ces superstitions sont de tous les temps, à mesure que décroît la religion du vrai Dieu. Il faut à l'homme, tel qu'il est constitué, un objet, et si Dieu n'est pas pour lui cet objet, il se dégrade moralement et cherche des conseils auprès de sa table et de son bâton. Et c'est le jugement de Dieu sur l'impiété de l'homme, il le livre à un esprit réprouvé. Désormais, Dieu n'arrêtera plus le jugement. Trois paroles solennelles montrent que Dieu a pris à l'égard d'Éphraïm une décision irrévocable. Que nul ne conteste, que nul ne reprenne. Verset 4. Je ne punirai pas vos filles. Verset 14. Éphraïm s'est attaché aux idoles, laisse-le faire. Verset 17. Ces paroles sont semblables à celles de l'Apocalypse. Que celui qui est souillé se souille encore. Apocalypse 22, verset 11. Mais, comme nous l'avons dit, cet arrêt définitif ne s'adresse pas à Judas. Que Judas ne se rende pas coupable, dit l'Éternel au verset 15. Combien cette parole est importante pour ce qui reste encore du peuple de Dieu dans le jour actuel. Déjà, le mal qui a envahi la masse du peuple sévit au milieu de ceux que Dieu conserve encore comme un témoignage au milieu de l'infidélité générale. Bientôt, ce qui reste aujourd'hui debout subira le même sort que l'ensemble de la nation. Comment se préserver de la contagion ? Comment demeurer sur le terrain de la bénédiction ? Dieu demande-t-il de grandes choses à Judas, déjà entamé de toutes parts par l'apostasie finale ? Non. Quand il y a si peu de force, il ne demande qu'un témoignage négatif, pour ainsi dire, comme il dit à Philadelphie, « Tu n'as pas renié mon nom. » Apocalypse 3, verset 8. Abstiens-toi. Tel est le mot d'ordre. Reste éloigné de ceux qui, sous des dehors respectables ou sous des noms augustes et sacrés, ne couvrent plus que l'iniquité et l'abandon de Dieu. N'allez pas à Gilgal, et ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas « L'Éternel est vivant » verset 15. Ces lieux si connus dans l'histoire du peuple de Dieu avaient passé, par voie de conquête, après la division du royaume, des mains de Benjamin à celles d'Éphraïm, et se trouvaient par leur position à la portée immédiate de Judas comme un piège sur son chemin. Gilgal, mémorial de la victoire remportée sur la mort par l'arche placée au milieu du Jourdain. Monument durable de l'entrée des 12 tribus en Canaan. Gilgal, lieu de la circoncision, du retranchement de la chair, du jugement prononcé sur elle et sans lequel on ne pouvait prendre possession du pays de la promesse. Gilgal, lieu où Israël revenait toujours pour y trouver le secret de la victoire, lieu de rassemblement du peuple fidèle, était devenu un lieu d'autel et de sacrifice profane pour Éphraïm, un lieu où la transgression s'était multipliée. Osée 9, verset 15, 12, verset 12, Amos 4, verset 4 et 5, verset 5. Béthel, maison de Dieu, lieu des promesses faites à Jacob, lieu où il avait reçu son nom d'Israël et où le Tout-Puissant s'était comme tout de nouveau fait connaître à lui. Béthel était devenue la maison des veaux d'or, de leur autel et de la fausse sacrificature instituée par Jéroboam. 1 Roi 12, Amos 3, verset 14. Comme il méritait bien le nom de Beth-Haven, maison d'iniquité, nom dont Osée le flétrit trois fois. Chapitre 4, verset 15, 5, verset 8, 10, verset 5. Dans ces lieux où jadis Samuel, le prophète de l'Éternel, se rendait d'année en année, on ne trouvait plus qu'idolâtrie et faux prophètes. Tel était le culte d'Éphraïm. Judas devait s'en abstenir. N'avait-il pas le lieu où l'Éternel faisait habiter son nom à Jérusalem? Et si ce lieu même était déshonoré, était-ce une raison pour retourner à l'idolâtrie qui avait l'impudence de se parer du saint nom de l'Éternel? Cet appel si pressant à ne pas se rendre coupable a-t-il atteint le cœur de Judas? Le chapitre suivant va nous répondre. Et que feront aujourd'hui ceux qui, dans la chrétienté, reçoivent le même appel? N'allez pas à Gilgal et ne montez pas à Beth-Aven.